Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Culturellement Vôtre. Vous êtes avec Annick à RVE. Alors aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir Madame Lise Leboeuf, responsable de la médiation culturelle du château de Maintenon. Madame Leboeuf, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes là pour nous parler du château de Maintenon. Il y a plein de choses à dire sur ce château. On va essayer d'astrer, de dire l'essentiel, mais voilà. Le château de Maintenon, à l'origine, il n'était pas comme il est aujourd'hui. Il a été remanié. Bien sûr que la grande dame du château, la fameuse Madame de Maintenon, on va en parler. Mais moi, j'aimerais qu'on commence par les origines. À quoi il ressemblait? Est-ce qu'on sait à quoi il ressemblait? Qui étaient les propriétaires? Je veux bien que vous me disiez un petit mot là-dessus, s'il vous plaît.
Oui, alors oui, effectivement, le château de Maintenon, il n'a pas toujours appartenu à Madame de Maintenon. Ce n'est pas elle qui l'a fait construire. Il est beaucoup plus ancien. Déjà, les terres appartenaient au seigneur de Maintenon depuis le Xe siècle. Et la première construction, elle date de la fin du XIIe siècle, début XIIIe siècle. Il s'agit d'une tour carrée qu'on peut toujours voir aujourd'hui au château de Maintenon, qui est toujours présente, donc une grande tour carrée en grès gris. Et donc ça va être vraiment la première construction avec un but uniquement défensif, finalement. Ensuite, on va avoir vers le XVe siècle des tourelles qui vont être ajoutées et qui vont être reliées par un mur de courtine, toujours pour un but totalement défensif. Hein. Faut pas oublier qu'on est au Moyen-Âge et que les guerres se passent très souvent près des châteaux, en tout cas qu'on essaye d'attaquer les châteaux pour les occuper. Et donc, c'est pour ça qu'on avait vraiment des châteaux très défensifs.
Donc, ça veut dire que la tour carrée d'aujourd'hui, c'était le donjon.
Oui,
c'est ça. Après, il y avait des tours rondes qui étaient des tours défensives.
Exactement.
D'accord. Mais là, vous avez dit que les seigneurs de Maintenon apparaissent au IXe siècle, donc avant la construction du château.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Oui, ils sont bien plus anciens. En fait, le château, ils avaient d'autres choses aux alentours. Bah, les Amauris, on connaît justement Montfort l'Amauri. Mm-hmm. Pour cela, c'est de très grandes terres qui leur appartenaient. Et donc, Maintenon n'est pas leur première construction, finalement. Elle va venir un peu plus tard, justement, pour un but défensif, de protéger leurs terres aux alentours.
Alors, vous avez dit qu'aux environs du 14e, 15e, donc Maintenon était possédé par la famille des Amauris. Mmh. Donc, juste pour mémoire, la famille des Amauris, donc, petit rappel, possédait donc la ville aujourd'hui de Montfort-l'Amauri, puisque le premier propriétaire était Monsieur de Montfort. Son fils Amauri Ier a collé son prénom donc au nom de papa, donc Montfort l'Amauri. Il possédait cette ville, il possédait également la ville d'Épernon et la ville de Maintenon. Donc leur territoire est très étendu.
Ah oui, non, mais c'est ça, c'est des seigneurs. Une seigneurie, ça peut être très grand. Mm-hmm. C'est pour ça, on parle de seigneur de Maintenon. Mm-hmm. Mais en réalité, on est sur des terres vraiment beaucoup plus larges.
Mm-hmm. Et vraiment, oui, parce que je crois que ça s'étirait jusqu'à Nogent-le-Roi aussi.
Exactement,
hein.
Ah, oui, c'est ça.
D'accord, ok. Alors après les Amauris, il y a eu qui?
Alors après les Amauris, il y a eu un autre personnage en 1509 plus précisément. Mm-hmm. Donc les Amauris ont eu quelques difficultés financières qui vont les pousser à devoir vendre leurs terres et le château de Maintenon. Et ça va être Jean Cottereau qui va se porter volontaire, on va dire. Alors c'est un petit peu... C'est pas très clair cette histoire. En réalité, il ne va pas réellement l'acheter. Il va avoir ce château, notamment pour ses fonctions de trésorier du roi Louis XII, puis du roi François Ier. Et donc, c'est lui qui va devenir propriétaire du château de Maintenon. Malgré qu'il ne l'ait pas acheté, il s'accommode mode de le refaire à son goût. Mm-hmm. Et donc, toute la partie médiévale va un petit peu disparaître, ou en tout cas une bonne partie. On va garder seulement les tourelles et la tour carrée, les murs de courtine vont être abattus et on va les remplacer par des corps de logis de style Renaissance, dont le corps de logis principal à l'entrée du château avec le châtelet d'entrée. Mm-hmm. Qui est totalement de style Renaissance avec les poivrières, qui sont vraiment magnifiques. Et en fait, tout ça, ça vient totalement de la Renaissance italienne, de l'inspiration des châteaux de plaisance à l'italienne. Mm-hmm. Jean Cottereau va s'en inspirer à ce moment-là.
Alors, qu'est-ce qu'il va rester aujourd'hui? Parce que, d'un coup, je vais résumer si j'ai bien compris. On passe d'un château fort en château de plaisance par les Cottereau au XVe siècle, fin du XVe siècle, hein, c'est ça?
C'est ça.
Voilà. Et puis, qu'est-ce qui va nous rester aujourd'hui de la partie médiévale? Est-ce qu'il en reste?
Alors, on va garder la tour carrée.
Oui.
Qui va être totalement intacte. Hein. On la retrouve vraiment dans sa totalité. Et on va retrouver également les tourelles, les trois tourelles qu'il y avait sur les extrémités de ces murs qui mm-hmm. formaient donc un carré, hein, tout mm-hmm. simplement, un château en carré. Mm-hmm. Et on va retrouver encore aujourd'hui les trois tourelles.
Et la douve qui est autour du château, c'est date de l'époque
La douve
médiévale.
Également, oui, oui, c'est vrai. Ça fait partie également de la construction, on va dire. Mais il y a la douve qui a été maintenue. Par contre, le pont-levis qui existait autrefois va devenir un pont dormant.
Oui. Alors, voilà. On rappelle, le pont dormant, c'est un pont qui se lève pas. Hein. C'est un pont normal, on va dire. Voilà, aujourd'hui, c'est un pont normal, les ponts dormants. Très bien. Alors, est-ce que Monsieur Cottereau, est-ce que c'est lui qui a fait réaliser la grande galerie, là où il y a les écuries, ou est-ce qu'elle était déjà là ?
Elle n'était absolument pas là. Il n'y avait absolument rien à cet endroit-là.
D'accord.
On va avoir en fait un, donc il va y avoir l'église,
oui,
dont on parle très sévèrement, cette grande galerie qui relie l'église au château.
Mm-hmm.
Et en fait cette partie-là, elle va être beaucoup plus récente entre guillemets par rapport à Jean Cottereau, puisque ça va être sous Françoise d'Aubigné qu'on va la voir.
Ah, donc ce n'est pas Cottereau, ce serait Françoise d'Aubigné.
Exactement.
Donc la future Madame de Maintenon.
Exactement. Autrefois,
d'accord,
il n'y avait rien du tout. On avait donc l'église, pardon, qui mm-hmm. a été construite par Jean Cottereau pour y marier sa fille, notamment mmh. en 1526.
Mmh.
Et donc, cette église Saint-Nicolas date de Jean Cottereau et elle était totalement indépendante du reste du château. C'était même l'église paroissiale du village.
D'accord. Donc, avant les églises aujourd'hui.
C'est ça.
On peut retrouver, je crois savoir, sur les murs du château, l'emblème des Cottereau, non ?
Oui, on
oui,
retrouve
parce qu'il
l'emblème.
Il y a plein de blasons quand on va hein, sur les façades du château, il y en a plein. Vous pouvez nous donner un petit quelque chose, des informations dessus ?
Oui, alors bon, c'est ça qui est magnifique aussi avec Maintenon, c'est qu'on a l'histoire sur les murs. Et donc, bah, par exemple, on va retrouver les armoiries de Jean Cottereau, donc les lézards, qui était son symbole.
Mmh.
Alors, c'est un peu particulier. Ça nous fait tout de suite penser au symbole de François Ier, qui était la salamandre.
Ouais.
Étant son trésorier, est-ce qu'il s'en est inspiré ? Probablement. Également, le lézard a une propriété de protecteur. Donc, on peut penser qu'il l'ait choisi comme étant protecteur des finances du roi, mmh. finalement.
Ah, pas mal, ça.
Exactement.
Alors, après Jean Cottereau, qu'est-ce que nous avons d'autre ?
Eh bien,
comme propriétaire, pardon.
Eh bien, Jean Cottereau, comme je disais, il va marier sa fille dans cette église Saint-Nicolas en 1526.
Mmh.
Isabeau Cottereau, elle, va faire un beau mariage avec le duc d'Angenne, Jacques d'Angenne, duc de Rambouillet.
Alors, effectivement. Alors, est-ce que Jacques d'Angenne était déjà propriétaire de Rambouillet avant son mariage avec Isabeau Cottereau, ou est-ce qu'il a été d'abord propriétaire de Maintenon avant de devenir propriétaire de Rambouillet?
Non, c'était d'abord les ducs de Rambouillet. Les
D'accord.
d'Angenne étaient déjà bien positionnés sur Rambouillet avant cela.
Mm-hmm.
Et donc, il va obtenir Maintenon par mariage, donc comme une dot, hein, finalement, mm-hmm. Par mariage avec Isabeau Cottereau. Et mmh. donc finalement, étant duc de Rambouillet, ayant déjà Rambouillet, Maintenon étant à 20 kilomètres quand même seulement de Rambouillet, et Rambouillet étant plus proche de Paris, donc plus proche des rois à l'époque,
mmh.
pas vraiment d'intérêt de s'approprier Maintenon mmh. à ce moment-là. C'est pour ça qu'on ne garde pas vraiment de traces architecturales de cette période à Maintenon.
Alors peut-être qu'il n'a pas fait beaucoup de travaux, il s'est peut-être concentré plus sur son château de Rambouillet.
Exactement, ah, voilà, ouais. On va retrouver par contre plus de choses sur les Angennes à Rambouillet que à Maintenon.
Oui, effectivement. Alors, du coup, ça passe aux mains de la famille d'Angennes, ça va rester aux mains de la famille d'Angennes pendant un certain temps.
Mm-hmm.
Et puis ?
Et puis, on arrive en 1674.
Ah, la fameuse année.
Lorsque Françoise d'Aubigné cherche... un logement quelque part, un beau château où pouvoir aller séjourner, se reposer et partir un petit peu de la cour. Et donc, elle porte son dévolu sur le château de Maintenon, mmh. à ce moment-là.
Alors, moi, j'ai une petite anecdote, mais je pense que vous la connaissez aussi. Un petit quelque chose que je trouve très amusant, hein, c'est que je vais vous laisser quand même, avant de donner une petite anecdote, faire un petit point sur Françoise d'Aubigné. Comment elle est née? Qui était sa famille? Et puis après, on va aller sur Marie Galante. D'accord ?
Ça marche.
Ça marche.
Alors, Françoise d'Aubigné, c'est une histoire incroyable. Hein. Elle a une enfance totalement misérable. Elle est née déjà en 1635, le 27 novembre, à Niort, et plus précisément en prison. Elle est née en prison puisque son père, Constant d'Aubigné, y était incarcéré. Et à l'époque, alors ça peut paraître bizarre de se dire « bon, elle est née en prison alors que c'est son père qui était incarcéré », mais à l'époque, c'est un noble, Constant d'Aubigné, fils d'Agrippa d'Aubigné, hein, en tant que compagnon d'armes de Henri IV. Et donc, il était incarcéré et la famille suit en fait, en prison, hein, les nobles qui sont incarcérés, dans la cour finalement de la prison, ils ont des petites tentes. Et donc c'est là que Françoise d'Aubigné va naître. Puisque Constant d'Aubigné, alors c'est un monsieur assez particulier, hein, qui est connu comme étant un menteur, escroc, assassin, voilà, il a beaucoup de dettes et donc il va très souvent se faire incarcérer. Alors au château de Maintenon, on aime bien dire qu'il fait du tourisme carcéral, hein, qu'il a connu toutes les prisons de France, hormis la Bastille, à son grand regret.
Alors, on va faire une petite pause sur le grand regret du père de Madame de Maintenon. Et puis, je vous propose de faire une petite pause. On se retrouvera après pour cette histoire très amusante et un petit peu étrange en même temps. À tout à l'heure. Alors, nous voilà de retour dans Culturellement Vôtre avec Madame Lise Leboeuf. Vous nous parliez du père de Françoise d'Aubigné, donc la future Madame de Maintenon. Je vous laisse la parole.
Oui, alors, donc on parlait de Constant d'Aubigné, donc menteur, escroc, assassin, hein, de sa première femme et de son amant. Donc, il a été énormément de fois en prison. Et donc, c'est là qu'il va y rencontrer sa seconde femme, Jeanne de Cardillac, et avec qui il va avoir plusieurs enfants, trois notamment. Et parmi eux, il y aura cette Françoise d'Aubigné qui va naître en prison, donc en 1635.
Ah, la petite dernière ?
La petite dernière, exactement. Et donc, elle naît en prison, elle va y rester 9 mois avec ses parents avant d'être finalement confiée à sa tante du côté de son père. Donc, du côté protestant, hein, Constant d'Aubigné est protestant. Et donc, cette famille, c'est la famille des Villettes qui vit dans un château, le château de Mercey, qui ressemble un petit peu plus à une ferme qu'un château. Et ça va être la belle vie pour Françoise. Là-bas, ça va être magnifique. Elle va recevoir beaucoup d'amour, hein, contrairement à ce que pourra recevoir de sa mère. Elle dira que sa mère l'a embrassée seulement 2 fois sur le front après de grandes retrouvailles. Et là, avec les Villettes, ça n'a rien à voir. Hein. Elle connaît l'amour, elle connaît la fratrie. Elle a vraiment une très belle vie là-bas. Ça dure environ 7 ans, on dira, avant que son père sorte finalement de prison et décide de la récupérer. Et à ce moment-là, on lui fait fourvoyer un poste de gouverneur à Marie-Galante.
Alors justement, on en parlait avant la petite coupure. Marie-Galante, je trouve qu'il y a une histoire amusante entre la famille d'Angène... Et puis, la famille d'Aubigné, par rapport à Marie-Galante.
Oui, effectivement. Alors, les Angènes, on les retrouve également à Marie-Galante, puisque avant Constant d'Aubigné, le gouverneur était donc le duc d'Angène, voilà. un Angène. Et donc, voilà, ils vont se croiser une fois de plus à ce moment-là dans l'histoire.
Ah, je trouve ça drôle.
Et donc, c'est vrai que c'est assez drôle comme anecdote de pouvoir voir que les familles se croisent comme cela dans l'histoire.
Je vous laisse poursuivre.
Et donc, bon, alors, Françoise d'Aubigné part avec ses parents, sa famille, toute sa famille, sur un bateau pour 2 mois de traversée pour arriver à Marie-Galante. Alors, pendant ces 2 mois, elle manque de passer par-dessus bord à plusieurs reprises, hein, puisqu'on a très peur de la maladie à cette époque. Et comme elle faisait de longues siestes, sa mère pensait qu'elle était malade. Et donc, elle voulait la faire passer par-dessus bord. Bon, elle arrive saine et sauve à Marie-Galante, sauf que là-bas, c'est la déception pour Constant d'Aubigné. Puisque Marie-Galante, c'est pas ce qu'il espérait. Les exploitations de canne à sucre, il n'y en a pas vraiment encore. Il n'y a pas grand-chose à y faire. En tout cas, c'est pas suffisamment colonisé pour pouvoir y faire fortune comme il souhaiterait. Il faut travailler pour ça. Et c'est pas le grand fort de Constant d'Aubigné. Il abandonne donc Marie-Galante pour la Martinique. Là-bas aussi, il faut travailler pour y faire quoi que ce soit. Donc, il préfère rentrer en France métropolitaine, tout simplement.
D'accord.
Mais sans sa femme et ses enfants, parce que c'est quand même assez encombrant, hein. Et donc il les laisse là-bas, et donc Jeanne de Cardillac est avec ses 3 enfants en Martinique. Elle va devoir y vivre quelques années, le temps de réunir suffisamment d'argent pour pouvoir rentrer également en France métropolitaine.
Mais il les laisse volontairement, ou est-ce qu'il est rentré en France pour des papiers, pour quelque chose, ou
Effectivement, c'est pas très clair. Très certainement qu'il y est rentré pour justement récupérer suffisamment d'argent pour des papiers.
Ouais.
En tout cas, il les laisse tristement à leur propre sort en Martinique, hein, sans rien.
Donc, elle finit par rentrer en France avec ses enfants.
Et à ce moment-là, Constant d'Aubigné est introuvable. Alors, elles ne le sauront jamais, mais il est décédé. Il a été assassiné dans la ville d'Orange, dans une ville du sud de la France. Et donc, à ce moment-là, c'est un petit peu la descente aux enfers, hein, pour cette famille et pour Françoise d'Aubigné, puisque on parle de noblesse désargentée. Et donc, elles n'ont plus un sou. Surtout que Constant avait quelques dettes, hein, en plus de cela. Et donc, c'est vraiment la descente aux enfers. Sa mère va les obliger à aller mendier la soupe au couvent. Voilà, donc ça va être une période assez terrible et traumatisante pour Françoise, qui va en garder de vives séquelles, hein, très longtemps. Elle dira que c'est c'était la pire honte qu'elle ait pu avoir de sa vie.
C'est peut-être pour ça aussi qu'elle a décidé par la suite, quand elle était bien positionnée socialement parlant, de créer la fameuse école Saint-Cyr hein, pour les jeunes filles de noblesse désargentée, comme elle l'a été elle-même.
Exactement, hein, on peut voir ça comme une revanche sur la vie,
sur la
totalement.
Vie. Oui. Alors, tout va basculer à l'âge de...
Eh bien, à l'âge de 16 ans.
Voilà.
Alors avant ça, elle passe par le couvent.
Oui.
Sa tante, la marraine de sa mère, l'envoie au couvent. Elle déteste ça. Et donc, au lieu de lui payer un couvent, sa tante préfère l'envoyer dans des salons parisiens afin de faire la rencontre d'un futur mari. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que sa vie bascule.
Oui.
Puisqu'elle rencontre un homme qui va terriblement changer sa vie.
Oui.
Contrairement à ce que les apparences peuvent nous faire penser, elle y rencontre Paul Scarron.
Oui.
Alors, Paul Scarron, c'est un personnage assez atypique, hein. Il est très vieux, déjà. Bon, 42 ans, c'est déjà vieux à l'époque. Hélène en a 16. Et puis, il a une maladie de la colonne vertébrale, hein. Il est tétraplégique, totalement paralysé, recroquevillé sur lui-même, hein. Ses amis parlent d'un insecte qui sort de sa coquille. Et en plus de ça, il est rempli de pustules.
Ah, magnifique.
Donc, imaginez une jeune demoiselle de 16 ans rencontrant cet homme et qu'on lui dise que ça allait être son futur mari, eh bien, elle part tout simplement en courant et en pleurant. Mais Paul Scarron, ça va pas l'arrêter, hein. Il va entreprendre une correspondance avec elle et au bout de celle-ci, il va lui proposer donc deux solutions, soit lui payer le couvent à vie, soit l'épouser lui-même. Et donc, elle déteste le couvent, elle préférera donc l'épouser.
Oui. Tout plus que le couvent.
Tout sauf le couvent.
Tout sauf le couvent.
Voilà, exactement. Tout sauf le couvent. Et c'est la meilleure décision qu'elle ait pu prendre, hein, parce que marier Paul Scarron, c'est avoir accès au salon parisien, avoir accès à une éducation totale, hein, à la fois littéraire, mais également morale, philosophique. Enfin, voilà, elle va
c'est comme ça qu'elle va rentrer dans le monde, en fait.
Exactement. Mmh. Elle rentre dans le monde à ce moment-là. La petite anecdote, c'est qu'elle savait à la fin de ce mariage parler 7 langues.
Ah oui.
Imaginez une femme de cette époque, même nous aujourd'hui parler 7 langues, c'est assez exceptionnel. Mais pour
une femme, parler deux, c'est bien. Déjà
voilà.
Une, pas mal. Une est correctement.
Exactement. Mais au 17e, pour une femme parler 7 langues,
c'est extraordinaire.
Extraordinaire. Hein. Ouais. Et donc ça va lui apporter énormément de choses. Et puis également, comme on le disait, entrer dans le monde et donc faire des rencontres qui vont lui être fort utiles pour la suite.
Puis sa vie va complètement basculer encore une fois.
Oui.
À la mort de son époux.
À la mort de son époux, elle a seulement 23 ans lorsqu'il décède. Et elle se retrouve avec des dettes, sans rien, encore une
fois. Il était endetté, Paul Scarron ?
Il était endetté, il était terriblement endetté. Elle va devoir vendre tous ses meubles à sa mort.
D'accord.
C'est un peu la désillusion, une fois de plus.
Mais
heureusement...
Mais quelqu'un va la sauver.
Quelqu'un va la sauver, elle avait fait une magnifique rencontre, oui.
Je vous propose de faire une petite pause et on va parler de cette magnifique rencontre qui va... encore une fois, faire basculer la vie incroyable de la fameuse Madame de Maintenon. À tout à l'heure. Nous voilà de retour avec Lise Leboeuf du château de Maintenon. Alors, vous nous parliez justement de ce qui va faire que, après la mort de son époux Paul Scarron, qu'est-ce que je raconte, la vie de Françoise a complètement basculé parce qu'elle va faire une rencontre qui va changer sa vie.
Oui, elle l'avait déjà rencontré justement dans ses salons parisiens, mais ça va être l'opportunité de sa vie finalement, puisque elle fait la rencontre de Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart. Alors un très long nom pour être plus connue finalement sous celui de Madame de Montespan. À ce moment-là, favorite du roi Louis XIV, et surtout à ce moment-là avec un ventre qui s'arrondit d'un enfant. D'un double adultère avec donc Louis XIV. Sauf que cet enfant, double adultère, ce n'est pas accepté par l'Église et donc il faut absolument le cacher. Et c'est là qu'elle va faire appel à Françoise d'Aubigné afin qu'elle devienne gouvernante de ses enfants, puisqu'elle en aura d'autres par la suite. Et donc Françoise d'Aubigné va devenir gouvernante des enfants illégitimes du roi. Elle va les garder rue de Vaugirard dans le plus grand des secrets. Et c'est là qu'elle va vraiment développer tout un amour maternel finalement pour cela, et pour notamment le duc du Maine, hein, le très connu duc du Maine, un petit enfant avec un handicap à sa jambe, et elle va l'aimer d'un amour profond, elle l'appellera mon mignon, et voilà, elle aimera tous les enfants qu'elle va garder hein, finalement.
Oui, elle qui n'en aura pas.
Elle qui n'en aura pas. Et d'ailleurs, elle les aime tellement que le roi, en observant cela, lui dira « Madame, vous savez si bien aimer qu'il y aurait du plaisir à être aimé de vous, finalement. » C'est vraiment une phrase très connue du roi qui remarque cet amour, finalement, de Françoise d'Aubigné. Elle va un petit peu lui taper dans l'œil à ce moment-là. Alors, on ne sait pas dater précisément lorsque leur liaison va commencer.
Mm-hmm. Parce qu'elle est secrète au départ.
Elle est secrète, puis elle restera finalement secrète.
Hein, quasiment jusqu'à la fin.
Même après le mariage, ouais. En 1683, mm-hmm. on ne saura pas qu'ils se sont mariés. Mm-hmm. Et donc, mais tout de même, ça nous donne des clés pour comprendre un petit peu mm-hmm. la relation qui commence entre ces deux-là.
Donc, elle achète du coup le château de Maintenon grâce à ses deniers personnels, l'argent de son travail.
Hein. Alors, en partie, elle achète ce château, donc 240 000 livres. Mm-hmm. Et parmi ces 240 000 livres, il y en a quand même une bonne partie donnée par le roi pour ses bons et loyaux services. Donc, d'accord. Alors, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Hein. Est-ce que c'est pour son poste de gouvernante? Est-ce que c'est pour ce qu'elle apportait au roi? Mm-hmm. On pense quand même un peu plus que c'est pour son poste de gouvernante, hein, mm-hmm. tout de même. Mm-hmm. Mais le reste, effectivement, elle les apporte avec ses propres deniers, puisque Vaugirard, elle était logée, nourrie, blanchie, plus un salaire, et donc elle va faire le petit écureuil. Hein, très certainement, ça vient de son traumatisme de l'enfance. Hein, elle va tout garder pour elle, et très certainement que ça va lui servir pour acheter le domaine de Maintenon.
Alors, elle va faire plusieurs travaux à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle va réaliser comme travaux à l'intérieur du château ?
Alors déjà, elle va aménager ses appartements, faire construire ses appartements qui viennent joindre la tour carrée au corps de logis Cottereau. Mm-hmm. Et elle va également faire construire une grande aile, l'aile de Louis XIV. Mm-hmm. Ça va être Jules Ardan Mansart qui va la réaliser et qui vient relier la chambre du roi à l'église Saint-Nicolas.
Oui, celle où aujourd'hui il y a la grande galerie. Exactement. Avec en dessous les écuries.
Exactement.
Très bien.
C'est ça,
donc c'était
puis écurie, puis orangerie selon d'accord. les périodes. Mm-hmm. Et donc cette partie-là, elle sert uniquement au roi pour accéder à l'église, au balcon de l'église, puisque selon l'étiquette, le roi ne peut pas se mouiller les souliers avant d'aller à la messe.
Mm, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut comme étiquette ? Heureusement qu'on n'a plus ça.
Heureusement. Hein.
Alors, elle fait plusieurs travaux, et puis il y a des travaux qui vont pas lui plaire.
Il y a des travaux qui vont pas lui plaire, effectivement. En 1685, le roi Louis XIV a une grande lubie, hein, qui persiste quand même depuis un certain moment. C'est celle de ramener l'eau à Versailles. Mmh. Alors, il va essayer avec l'eau de la Seine, avec la machine de Marly, notamment. Mmh. Ça ne va pas suffisamment fonctionner pour qu'on garde cette idée. Et donc, il va jeter son dévolu sur l'eau de l'Eure, mmh. Il va demander à Vauban et Louvois de lui trouver une idée pour ramener l'eau de l'Eure jusqu'à Versailles. Et c'est oui. là que l'idée de l'aqueduc.
Il y avait 1000...
Il y avait 80 kilomètres à parcourir.
Non, mais pour les bassins. C'est 1064 bassins, je crois, quelque chose comme ça.
Ah
au moins,
oui,
hein.
oui, oui.
Au
oui,
moins, à l'époque.
À l'époque, oui, oui. Voilà. On avait... C'était énorme, hein, alors oui. qu'on construisait sur un marais.
Oui, voilà.
On partait de rien. Mmh. Et effectivement.
Oui, il voulait que l'eau prenne le chemin des airs.
Exactement. Voilà. Alors... pas tout à fait dans sa totalité. Hein.
Heureusement.
Le projet, heureusement, sur 80 kilomètres, il va vouloir 5 kilomètres en aérien
oui.
qui passe devant le château de Maintenon.
Oui.
Derrière les beaux jardins à la française créés par le nôtre, il va faire construire donc cet aqueduc aérien donc à la romaine sur 3 étages, donc il devait faire 70 mètres. Voilà, ça va être vraiment ce projet-là qui va être retenu. Mm-hmm. Les travaux vont commencer donc en 1685. On va avoir plus de 30 000 ouvriers, dont 20 000 qui sont des mercenaires. Il va y avoir la maladie des marais qui va causer beaucoup de morts. Mais surtout en 1688, il va y avoir la guerre de la Ligue d'Augsbourg.
Ah oui.
Et donc les mercenaires sont envoyés au combat.
Donc ça, le projet d'aqueduc, du coup, prend fin comme ça.
Il prend fin à ce moment-là, puisque la guerre dure 9 ans, et à la oui. fin de cette guerre, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État pour le maintenir.
D'accord.
Au plus grand bonheur de Madame de Maintenon.
Oui, qui verra les travaux s'arrêter.
Exactement. Voilà.
Donc on peut encore voir l'aqueduc au fond du jardin, oui. en tout cas pour la partie qui a été réalisée.
Voilà, sur ce qui était prévu, on a 20 mètres de hauteur et un peu moins d'un kilomètre,
oui.
mais ça donne une magnifique perspective du château et même des jardins à la française.
Et puis, quand elle décède, elle n'a pas d'enfant. Bon, on a vu qu'elle a réalisé à la fin de sa vie, quand le roi décède en 1715, hein, elle meurt 4 ans plus tard, si mes souvenirs sont bons, c'est bien ça,
ça oui.
Voilà. Et donc, elle quitte la cour, bien sûr, et elle va s'enfermer dans l'école qu'elle a créée, l'école pour les jeunes filles, l'école de Saint-Cyr.
Exactement. Oui.
Mais à sa mort, en 1719, que devient le château ?
Eh bien, le sort du château était déjà fait depuis bien longtemps avant cela. En 1698, mm-hmm. elle décide de faire un cadeau à sa nièce, une dot pour son mariage avec Adrien Maurice de Noailles. Donc sa nièce, Charlotte Amable d'Aubigné, fait ce mariage donc avec un Noailles. Et donc le château devient le cadeau de mariage. Et c'est comme ça que le château de Maintenon rentre dans l'histoire de la famille des Noailles, et ce pour 300 ans d'histoire.
Alors ce qui est très amusant, c'est je trouve qu'il y a vraiment une corrélation entre trois villes, Maintenon, Rambouillet et Épernon. Parce que nous savons, par les Amauris, hein, propriétaires donc de Maintenon et d'Épernon, avec la famille d'Angennes, propriétaire de Rambouillet et de Maintenon, mais par la suite aussi, hein, nous savons que le mari de Madame de Montespan, donc Monsieur de Montespan, fut également propriétaire des terres d'Épernon, et qui va ensuite les léguer par descendance à la famille de Noailles. Je trouve ça très amusant.
Oui, c'est vrai. Les Noailles vont, un peu comme Madame de Maintenon, acquérir de nombreuses terres aux alentours, dont celle d'Épernon par héritage. Effectivement, oui. Mais c'est pas le seul lien entre les Rochechouart, enfin les Montespan et Madame de Maintenon. Hein,
ah oui, parce qu'il y en a d'autres encore.
Et la famille de Noailles.
Allez-y.
Effectivement. Donc 300 ans d'histoire, ça fait beaucoup de Noailles, hein, au château de Maintenon.
C'est clair.
Et parmi eux, il va y avoir ce fameux Paul de Noailles, très important hein, pour le château, puisque ce fut le biographe officiel de Madame de Maintenon. Il va beaucoup œuvrer pour la restauration du château, le réaménagement, hein, notamment l'aile Louis XIV, qui va devenir des appartements d'apparat, des salons d'apparat 19e, qui sont encore visibles aujourd'hui. Et sa femme, c'est Alicia de Rochechouart de Mortemar.
Descendante
de Madame de Montespan.
Extraordinaire.
Voilà.
Je vous propose de faire une petite pause et on parle de tout ça dans une minute. Nous voilà de retour dans Culturellement Vôtre. Alors, Madame Lise Leboeuf, vous nous parliez de la nièce de Madame de Maintenon qui hérite du château de sa tante. Elle épouse un membre de la famille de Noailles. Et ensuite, ils font des travaux. Que se passe-t-il par la suite ?
Eh bien, le château devient le lieu de vie principal de cette famille de Noailles. Hein. Alors, les Noailles sont très connues dans l'histoire de France. Il y en a 6 branches en tout. Mais là, on parle vraiment de la branche d'Adrien Maurice de Noailles avec Charlotte Amable d'Aubigné et qui vont donc vivre au château de Maintenon pendant de nombreuses années, voire siècles. Hein.
Et puis, il y a un Noailles aussi qui a... Noailles qui a épousé le comte de Toulouse, donc le dernier fils légitimé de Louis XIV et de la Montespan.
On trouve encore un lien avec
Maintenon et Rambouillet. Alors, on continue sur Maintenon. Il va, donc, la vie se poursuit. Le château évolue au goût et au gré des propriétaires et au goût des époques. Et puis, on arrive à la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de dégâts, là.
Oui. Malgré tout un travail hein, de réaménagement,
excusez-moi de vous interrompre. Je parle de la Seconde Guerre mondiale, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose à Maintenon lors de la guerre de 1870 ou lors de la Première Guerre mondiale ? Il y a rien de particulier, je crois savoir.
Non, il ne s'est rien passé du tout pendant toute cette période. Tout simplement, puisque pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands n'ont pas suffisamment pénétré le territoire pour arriver jusqu'à Maintenon, donc. Sur ce point-là, on a été tranquille à Maintenon.
D'accord, ok. Alors, Seconde Guerre mondiale.
Ce ne sera pas le cas de la Seconde Guerre mondiale,
effectivement. La ligne Maginot a été franchie.
Voilà. Et les Allemands vont décider de venir occuper le château de Maintenon. Alors, plus précisément, le parc du château de Maintenon. Le château va être assez tranquille sur ce point-là. Hein. À part ne pas être assez bien entretenu pendant cette période, ça va être tout simplement ça. C'est vraiment le parc qui va servir de stock de munitions pour les Allemands, hein, notamment pour la Luftwaffe. Et donc, les Allemands vont occuper cette partie-là. Ça aurait pu s'arrêter là, sauf que Allemands dans le coin résistant pas loin. Et la gare de Maintenon, qui était à 200 mètres à l'époque, avec toutes les habitations qu'on connaît aujourd'hui, à vol d'oiseau, c'était assez proche. Hein.
Oui.
Et cette gare qui servait à ravitailler les Allemands à Maintenon va être bombardée par les résistants. Et notamment, une caisse de munitions va être touchée et ça va causer de grosses explosions. Qui vont également causer des dégâts dans le château puisque les fenêtres vont être soufflées. Et là, ça va être terrible pour le château. Donc de la boue, par exemple, va pénétrer dans la chambre de Madame de Maintenon. Mais également, après cela, ça va être la moisissure qui va pouvoir pénétrer dans ce château. Et tout ça, ça va causer des dégâts absolument horribles, hein, puisque ça va être des années sans être entretenu réellement, puisque pendant cette période, le château n'est pas occupé. Et en plus de ça, donc le père de la dernière propriétaire, Jean de Noailles, va décéder au camp de Bergen-Belsen en tant que résistant. Mm-hmm. Et son fils, normalement héritier du château, va également décéder dans un maquis en tant que résistant.
Alors, qui hérite du château ?
Eh bien, c'est celle qui n'aurait pas dû hériter, selon la loi salique, Geneviève de Noailles, la dernière fille du couple de Jean de Noailles et de Solange, va hériter du château en 1954, à la mort de sa mère. Elle a fait un très beau mariage avec Jean Rindre, ambassadeur, héritier, pardon, de la famille des ambassadeurs de Saxe. Mm-hmm. Et elle va faire ce très beau mariage, elle va hériter de ce château. Sauf que c'est un château avec de terribles dégâts et donc des travaux pharaoniques à réaliser. Hein. Mais ils vont très bien s'en sortir, ils vont beaucoup œuvrer pour tout ça, ça va être très long. Mm-hmm. Mais c'est grâce à eux notamment que le château peut être ouvert au public aujourd'hui.
Oui, hein, parce qu'ils ont créé une fondation.
Ils ont créé une fondation dans les années 80. Mm-hmm. Et avant cela, ils ont beaucoup œuvré pour sa restauration, quitte à utiliser des astuces de grand-mère. Hein. On parle notamment des plafonds à la française qui vont être récupérés grâce à la pomme de terre, puisque l'amidon permet, est anti-moisissure. Et donc, avec les personnes qui étaient à leur service, ils vont comme ça réussir à récupérer ce château au mieux qu'ils peuvent.
Tout ce qu'on voit aujourd'hui à l'intérieur du château a été placé là par la famille Rindre, du coup.
Oui, c'est ça. Alors, on a beaucoup de mobilier qui va dater de Paul de Noailles, dont on parlait tout à l'heure, donc
la
Second Empire,
oui.
Et de la descendance qui va suivre, notamment tous les appartements 17e. Mm-hmm. Mais on a aussi une bonne partie qui vient de la collection privée de Monsieur Rindre. Mm-hmm. Et on va avoir d'autres pièces de mobilier, telles qu'un clavecin Albert Delain, mm-hmm. Qui a été offert au château de Maintenon par le claveciniste Kenneth Gilbert, par exemple. Donc le château, comme ça, va à la fois être un témoin de l'histoire de Madame de Maintenon, mais également de la famille de Noailles.
Et puis, je crois savoir qu'il y a aussi une petite histoire de la littérature, parce qu'il y a un magnifique secrétaire, hein, un bonheur du jour. Est-ce que vous pouvez nous dire deux petits mots sur ce bonheur du jour ?
Le petit bonheur du jour, alors c'est un petit mobilier qui servait pour les femmes à écrire chaque jour à l'homme qui était parti à la guerre ou en voyage d'affaires. Pour leur écrire une lettre par jour, et donc c'était le petit bonheur du jour de le recevoir. Mais l'anecdote, c'est surtout qu'il a appartenu à la comtesse de Ségur.
Oui.
C'est la petite fille de la comtesse de Ségur qui va l'offrir à Yolande d'Albert de Luynes, à ce moment-là propriétaire du château, duchesse de Noailles.
Dampierre.
Dampierre, voilà.
La famille Dampierre.
Dampierre, dans la vallée de Chevreuse. Voilà. D'ailleurs, Marcel Proust fera une référence à elle dans À la recherche du temps perdu.
Tout à fait.
Comme la duchesse de Chevreuse.
Voilà.
Et donc, ce petit bonheur du jour appartenait à la comtesse de Ségur et il aurait peut-être servi à écrire Les Malheurs
de Sophie. Et puis, une autre petite anecdote. J'ai entendu dire que une partie du film Fanfan la tulipe s'est déroulée dans le château de Maintenon.
Alors oui. On a eu deux films assez connus qui ont été tournés au château de Maintenon, donc Fanfan la tulipe, et on a également eu Le Professionnel avec Jean-Paul Belmondo.
Ah oui, oui.
Et ça, c'est une histoire folle, puisque on voit dans cette scène l'hélicoptère se poser dans les jardins à la française, on voit la grande galerie. Voilà, c'est très parlant pour évoquer le château.
Donc maintenant, il faut un autre film en château. Alors, on fait un appel aux acteurs. Alors, du coup, le château de Maintenon aujourd'hui, qui s'en occupe ?
Alors,
c'est toujours la fondation ? C'est toujours la famille Rindre ?
Alors, ce n'est plus la famille Rindre. Par contre, depuis les années 80, c'est la fondation Mansart, qui était autrefois la fondation Château de Maintenon, qui est devenue dans les années 2000 la fondation Mansart, qui est toujours propriétaire du lieu. Mm-hmm. Par contre, la gestion va être confiée au conseil départemental d'Eure-et-Loire.
D'accord.
Donc, on va être gestionnaire des lieux. Depuis 2005, par un bail emphytéotique.
D'accord. Voilà. Donc, bail emphytéotique, on se rappelle, hein, c'est 99 ans.
Exactement.
Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? Maintenant, vous nous avez donné envie vraiment de rentrer dans ce château. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de la programmation ? Vous nous proposez quoi ?
Alors, le château de Maintenon, c'est toujours des événements. Alors, on a des événements phares hein, qui reviennent chaque année, comme par exemple le week-end chocolat, hein, pour n'en citer qu'un.
Le fameux Noël.
On a l'hiver aux merveilles, voilà, oh là exactement. Là. Après, là, on va rentrer dans une phase de travaux pour le château, notamment pour pouvoir lui redonner toute sa splendeur, l'embellir. Donc, vraiment, là, la programmation va être vraiment dévouée à mettre en valeur les jardins, surtout pour une fois, qui sont tout aussi beaux que l'intérieur du château. On va avoir une multitude de concerts qui vont être donnés au château de Maintenon, une exposition sur les livres insolites, et puis voilà, tous les événements nationaux qu'on retrouve chaque année, rendez-vous au jardin, les journées européennes du patrimoine.
Alors, on peut retrouver tout ça sur votre site?
Voilà, alors le site internet, vous retrouvez toute notre programmation
vous
pour l'année.
Donner
alors, le site internet, c'est www.châteaudemaintenon.
Attaché.
Mm-hmm. Tout attaché, châteaudemaintenon.fr.
Et puis pour finir, une petite anecdote assez humoristique encore, enfin moi je trouve, c'est que au moment où elle achète le château de Maintenon, Françoise d'Aubigné je parle, et qu'elle est favorite du roi, à la cour on l'appelle Madame
de Maintenon. D'ailleurs Madame de Montespan lui dira: vous n'êtes que Madame de Maintenon, prenez guère. Elle s'était trompée puisqu'elle épousa le roi quelques années plus tard.
Et voilà. Donc, devenir Madame de Maintenon à Madame de Maintenon. Et c'est maintenant qu'on vous laisse et qu'on vous invite à aller visiter ce château magnifique et chargé d'histoire. À bientôt.